journal avec vous Alexandra Dubouchereau. Bonsoir.
Bonsoir à tous. L'exécutif troque la présentation de son plan de relance prévu mardi par un conseil de défense consacré au coronavirus. Annonce surprise faite aujourd'hui, mais le gouvernement l'assure, le plan est prêt, c'est juste un report d'une semaine. Décryptage avec Laurence Perron du service politique d'Inter. Et puis la réaction de la CPME, les petites et moyennes entreprises qui attendent beaucoup de ces annonces. L'indignation à Oradour-sur-Glane après la découverte de tags. Pour l'historienne Valérie Gounet, le négationnisme s'étend au lieu mémoriel, vous l'entendrez. Dans ce journal encore, c'est écologique et économique. Une bourse aux fournitures scolaires, ça se passe dans le Nord, reportage à suivre. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara promet une victoire par chaos à la prochaine présidentielle. Il vient d'être investi candidat à un troisième mandat. Et puis la Ligue des champions de football, sécurité renforcée à Paris pour la finale du PSG demain. Des masques seront distribués aux supporters. Et puis deux quarts de finale ce soir pour les Français. PSG, Arsenal et OL Bayern Munich. À la différence des hommes, les filles ont pas mal d'expérience dans cette compétition.
France Inter.
C'est un plan à 100 milliards d'euros et il est attendu depuis des mois par les entreprises. Le plan de relance de l'économie post-coronavirus, sauf qu'on ne semble pas à une semaine près. Le gouvernement annonce aujourd'hui qu'il ne sera pas présenté mardi comme c'était prévu, mais début septembre, pas de date précise pour l'instant. Le but, c'est de laisser la place à la séquence coronavirus. Les indicateurs ne sont pas bons. Plus de 4500 cas de contamination pour le deuxième jour de suite dans l'Hexagone. Et en ligne de mire de l'exécutif, c'est bien sûr une rentrée à haut risque. N'empêche que l'annonce a surpris tout le monde, Laurence Perron.
Cette annonce est effectivement assez surprenante, d'autant que le Premier ministre, ce matin encore en visite dans la Somme, n'en a pas soufflé un mot, vantant au contraire un plan de relance qui reposera pour une grosse part sur les territoires. L'explication d'un report afin de laisser le temps aux Français de s'approprier les nouvelles mesures sanitaires, le port du masque systématisé en entreprise, les modalités de reprise de l'école, tout cela a convaincu le MEDEF. Le syndicat du patronat n'y voit aucun signe d'une éventuelle impréparation gouvernementale. Matignon répond par avance aux inquiétudes. Non, il n'y a pas d'aggravation notable de la situation sanitaire et ce délai est plus lié à un besoin effectivement de pédagogie et de transparence sur la situation de l'épidémie dans les jours à venir. On rassure les Français, on les accompagne face au frémissement des chiffres de contamination. Un député de la majorité avance aussi que vu l'ampleur du plan, le président de la République ne voulait pas d'annonce en catimini avant la rentrée et c'est plutôt malin, conclut-il. L'opposition glose sur l'amateurisme, un dissident du parti présidentiel ironise. On espère que c'est pour l'améliorer, ce plan.
On n'est pas à une semaine près, c'est vrai, reconnaît Jean-Eudes Duménil Dubuisson, le secrétaire général de la CPME, les petites et moyennes entreprises. Mais après les annonces, il va falloir vite entrer dans le vif du sujet, selon lui.
On aurait souhaité, nous, que les dispositions soient annoncées avant l'été. C'est ça qu'on souhaitait. On nous a indiqué que c'était trop tôt, qu'il fallait que les choses se mettent en place, que ça serait à la fin de l'été. Maintenant, on commence à nous dire qu'il y a une semaine de retard. C'est pas la semaine en elle-même le problème, mais c'est le signal que ça renvoie. Est-ce que ça veut dire que les pouvoirs publics ne sont pas prêts? Est-ce qu'il y a encore des arbitrages? Il y a un moment, les annonces petit à petit au compte-gouttes, ça commence à bien faire. On veut savoir exactement ce qu'il en est, combien l'État va mettre sur la table, tout simplement parce que les entreprises en ont besoin. Il y a celles qui sont en difficulté d'une part. Tout ce qui concerne, par exemple, le report de charges, tout ce qui concerne les PGE, les prêts garantis par l'État, on a besoin maintenant de savoir à quelle sauce vont être mangées les entreprises, quel taux d'intérêt vont appliquer les banques. Enfin, voilà. Et puis, on attend aussi avec beaucoup d'impatience la mise en pratique d'annonces, par exemple, telles que la diminution des impôts de production pour pouvoir réindustrialiser l'économie française. Ce plan de relance, on en parle maintenant depuis des mois et des mois. Il ne faudrait pas que ça devienne l'Arlésienne.
Jean-Eudes Duménil Dubuisson, le secrétaire général de la CPME, le plan de relance qui prévoit toujours d'associer un tiers des dépenses, environ 30 milliards d'euros, aux objectifs de transition écologique et de préservation de l'environnement. En déplacement dans la Somme, ce matin, Laurence Perron en parlait il y a quelques minutes, Jean Castex, le Premier ministre, s'est fait le chantre d'une transition écologique concertée avec les activités économiques et humaines. Certains verts vont peut-être voir rouge ce soir. Éric Dupond-Moretti vient d'arriver à Pantin, en Seine-Saint-Denis, en clôture des journées d'été des écologistes. L'ancien avocat, désormais ministre de la Justice, a accepté de venir débattre. Après ses propos très remarqués et très virulents contre ce qu'il appelle les ayatollahs de l'écologie. Sur le plan purement politique, Europe Écologie Les Verts et les cinq autres partis verts réunis cette semaine ont lancé tout à l'heure un appel au rassemblement pour les régionales et pour les départementales de 2021. Quand on remplace le mot martyr par menteur, un cap est franchi. C'est ce qu'il s'est passé hier à Oradour-sur-Glane. Sur-Glane, village martyr de la Seconde Guerre mondiale où 642 civils ont péri sous les balles et dans le feu nazi en juin 1944. Cette inscription négationniste a été découverte sur le centre de la mémoire. Depuis, c'est l'indignation, acte inqualifiable pour Emmanuel Macron qui promet que tout sera fait pour poursuivre ses auteurs. Jean-Baptiste Djebbari s'est rendu sur place cet après-midi. Le ministre est un ancien député de Haute-Vienne. L'historienne et politologue Valérie Gounet, spécialiste de l'extrême droite et du négationnisme en France, y voit, elle, le signe d'une expansion croissante de ces idéologies haineuses. Elle répond à Sarah Ders.
Ce qui est très significatif, si vous voulez, c'est que cette négation historique s'étend justement à ces lieux mémoriels. Avant, elle était focalisée, comme ils appellent ça, sur les chambres à gaz, la négation des chambres à gaz de l'extermination des Juifs. Et peu de temps après, elle s'est étendue et elle est revendiquée davantage par des néo-nazis. Le négationnisme continue, même s'il est minoritaire dans la société aujourd'hui française. Je pense qu'avec le contexte qui fait que les derniers déportés sont là pour témoigner, mais qu'ils vont s'éteindre, je pense que c'est une idéologie qui va certainement s'étendre. Et ça montre, si vous voulez, qu'ils veulent nier cette mémoire comme ils le faisaient avant, mais d'une façon, j'allais dire, beaucoup plus violente.
Une plainte a été déposée et une enquête est en cours. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Éric Ciotti, la classe politique est unanime pour condamner ces inscriptions négationnistes à Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne. Des réactions à lire sur franceinter.fr. Sur notre site internet aussi, avant le procès des attentats de janvier 2015 qui va s'ouvrir le 2 septembre, la rédaction numérique de France Inter vous propose des portraits, des protagonistes avec de nombreux témoignages. Aujourd'hui, le dessinateur de Charlie Hebdo, Philippe Honoré, est l'un des avocats des otages de l'hypercachère Patrick Klugman. C'est à lire sur franceinter.fr. Prudence avec les grandes marées en cours sur la façade atlantique. Un jeune d'une vingtaine d'années est entre la vie et la mort à l'hôpital. Il a été déséquilibré puis emporté par une vague alors qu'il courait sur un muret à Saint-Malo ce matin. Le masque, nouvelle fourniture scolaire pour cette rentrée 2020, obligatoire dès 12 ans au collège et au lycée et à la charge des familles. Le ministre de l'Éducation nationale promet la gratuité pour les plus modestes. En plus, rappelle Jean-Michel Blanquer, de la hausse de 100 euros cette année pour l'allocation scolaire. Mais pour certains, ces coups de pouce ne suffisent pas. Alors à Hasbrouck, dans le Nord, le centre socio-éducatif a lancé une opération troc de fournitures scolaires. Le reportage France Bleu Nord d'Alice Ancelin.
Le troc a été organisé en deux temps par Ludivine Fay, coordinatrice au CSE. D'abord deux jours de collecte au début du mois d'août auprès des habitants, puis une matinée de distribution gratuite à ceux qui le souhaitent. Ici, chacun se sert en fonction de ses besoins.
On a des cahiers, des classeurs, des stylos, des compas, on a des habits, des chaussures, des sacs, enfin, voilà, il y a un peu de tout. Il y a des gens ce matin qui sont venus avec la liste scolaire, qui ont pu repartir avec des cahiers spécifiques 24-32, etc.
But de cette opération, donner une seconde vie à des objets qui pour certaines familles n'ont plus aucune utilité.
C'est vraiment un objectif écologique, c'est limiter les déchets, et économique, c'est réduire l'impact économique de la rentrée pour les familles, surtout en cette période un peu compliquée.
Habitante de la ville, Bernadette en profite pour se débarrasser d'anciennes fournitures, mais aussi ramener un cadeau à ses petits-enfants.
J'avais rapporté des cahiers, des pochettes. Et matin, j'ai pris une paire de petites bottes, parce que comme j'ai une petite fille et là, je viens d'avoir un petit-fils, la couleur était mixte. J'ai dit, c'est des histoires d'un jour pour l'école, une classe verte, ça peut être bien pratique.
Bernadette repart donc avec la fameuse paire de bottes, mais aussi un bloc-notes et des stylos. De quoi faire diminuer les stocks de la collecte sans pour autant les vider. Une nouvelle matinée de distribution est donc prévue vendredi prochain.
À l'étranger, Alassane Ouattara en lice pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire. Le président vient d'être investi candidat par son parti. Le chef de l'État de 78 ans ne devait pas se représenter. Il voulait passer la main à son premier ministre, mais celui-ci est mort brutalement en juillet, l'obligeant, dit-il, à revoir ses plans. L'annonce de sa candidature jugée inconstitutionnelle par l'opposition a entraîné 3 jours de violence dans le pays la semaine dernière. Alassane Ouattara qui a tenu un discours très offensif tout à l'heure devant des dizaines de milliers de partisans réunis dans un stade d'Abidjan. Sur place, le reportage d'Amandine Réau.
Devant des dizaines de milliers de militants venus de tout le pays, Alassane Ouattara dénonce les violences qui ont fait 6 morts la semaine dernière. Sans les nommer, il accuse ses adversaires de manipuler la jeunesse.
Ce sont des périls. On n'a pas besoin de brûler des arbres. On n'a pas besoin de casser des voitures. On n'a pas besoin de brûler des maisons. On n'a pas besoin d'instrumentaliser les jeunes. Allons-y aux urnes.
L'opposition juge inconstitutionnelle la candidature de Ouattara à un troisième mandat, mais les militants ont une autre interprétation.
Ce n'est pas un troisième mandat. Il faut préciser la chose. C'est un premier mandat de la Troisième République.
On aime les gens qui veulent travailler. Même quatrième mandat, nous on veut.
Dans un discours d'un peu moins d'une heure, Alassane Ouattara vante son bilan. Il dit avoir développé davantage la Côte d'Ivoire en 9 ans que ses prédécesseurs en un demi-siècle.
Un coup chaos.
Et entend remporter l'élection en un coup chaos, soit dès le premier tour. Abidjan, Amandine Réau, France Inter.
L'arrivée d'une délégation de la CEDEAO au Mali, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a été accueillie par la junte militaire qui a pris le pouvoir mardi dans le pays. Elle doit rencontrer dans la soirée le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, qu'elle continue officiellement de soutenir. France Inter, il est 19h10, dernier entraînement ce soir au Portugal pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Avant la finale demain, contre le Bayern de Munich en Ligue des champions de football. Match à huis clos qui sera très suivi dans la capitale. 3000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. L'avenue des Champs-Élysées piétonne pour l'occasion, pourra être évacuée au bout de 2 heures. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris. La mairie de Paris, elle, se dit défavorable au rassemblement en pleine période de rebond de l'épidémie. Pierre Rabadan est l'adjoint en charge des sports. Il en appelle à la responsabilité de chacun, au moins sur le port du masque.
Les zones d'obligation du port du masque autour du Parc des Princes et des Champs-Élysées ont été étendues. Et il va y avoir une distribution de masques pour les gens qui viendraient sans masque pour qu'ils puissent pénétrer dans la zone. Et ça ne sera pas que dans ces deux zones-là, puisque la ville aussi va assurer toute la journée de dimanche, au-delà des encouragements au PSG, une information sur la nécessité de respecter, comme je vous l'ai dit, les gestes barrières, la distanciation sociale et de porter un masque dans tous les lieux parisiens, potentiellement, où les gens pourraient aller voir le match. Et voilà, on sait très bien qu'il y aura des lieux où les gens se réuniront pour voir le match. Il faut, dans ces lieux-là, tenter autant que faire se peut de garder une distance raisonnable et de porter les masques quand il y a plus de 10 personnes.
Des propos recueillis par Paul Sertilange, et on l'apprend à l'instant, la maire de Paris, Anne Hidalgo, grande fan du club parisien, on le sait, sera demain à Lisbonne pour assister à la finale de cette Ligue des Champions, à l'invitation du Paris Saint-Germain. Le PSG qui s'est hissé en finale, contrairement à Lyon, battu 3-0 mercredi par le Bayern Munich. Et si on refaisait le match? Réponse à 20h, OL Bayern Munich, c'est l'affiche du soir, toujours en Ligue des Champions de football. Mais côté filles, cette fois, et en quart de finale, un goût de revanche tout en sérénité pourtant pour l'attaquante lyonnaise Delphine Cascarino.
On n'a pas à avoir peur de ce match, c'est comme une finale, chaque match est une finale et on doit le jouer à fond, à 100%. Et c'est sûr qu'en match sec comme ça, il faut vraiment un gros mental et les Allemandes sont connues pour ça. Mais nous aussi, on a l'habitude de la Ligue des Champions, on a cette expérience et c'est sûr qu'on n'a pas le droit à l'erreur et on va tout faire pour les battre ce soir.
La Lyonnaise Delphine Cascarino avec Alexandre Vaux pour France Inter à moins d'une heure du coup d'envoi. OL Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions féminine. L'autre quart, lui aussi à partir de 20h, opposera le PSG, tient là aussi comme chez les hommes, et Arsenal chez les hommes. Suite de la première journée de Ligue 1 de football en France, Angers a battu Dijon 1-0 cet après-midi. À 21h tout à l'heure, Lille accueille Rennes. On file au PC Mobilité de Radio France. Bison Futé voyait rouge aujourd'hui dans le sens des retours. Plus de 600 km de bouchons cumulés à midi. Et c'est toujours difficile hein, sur les routes, Pierre-Antoine Lefort. La 7 notamment qui reste le gros point noir.
Oui, lorsque vous remontez en direction de Lyon, des ralentissements qui commencent des oranges, mais c'est à partir de Montélimar et ce jusqu'à Valence que se concentrent la plupart des difficultés. 1h10 de temps de parcours ce soir, c'est plus du double de la normale. Sur la 9 maintenant, quand vous roulez depuis Perpignan en direction de Montpellier, un accident entre 3 voitures à Poussant occupe la voie de gauche et entraîne des coups de frein pendant 4 km en amont. Des difficultés aussi sur l'autoroute A10 quand vous quittez Bordeaux en direction de Saintes, comptez 1h40 contre 1h d'habitude. Et puis une fois que vous avez passé la barrière de Saint-Arnoux, une vingtaine de minutes compliquées pour faire 9 km depuis Vaugrineuse jusqu'à Palaiseau.
Merci Pierre-Antoine et courage si vous êtes dans les bouchons. Le temps demain, ciel globalement chargé, mais du soleil au sud. Prévision signée Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Demain, le temps restera estival entre le Languedoc-Roussillon, la vallée du Rhône et la région PACA, sans oublier l'île de Beauté. Mistral et Tramontane vont se renforcer pour souffler jusqu'à 80 km/h. Les caps corses seront ventilés aussi avec des rafales de sud-ouest, voisines de 70 km/h. Dans les autres régions, prévoyez une alternance d'éclaircies, parfois belles, et de passages nuageux porteurs de courtes averses par moment. Avec le retour d'un flux plus océanique, la baisse des températures va se poursuivre. Les maximales évolueront entre 20 et 26 degrés, avec 20 degrés à Brest et Cherbourg, 22 à Lille, 23 à Rennes, comptez 24 degrés dans la capitale comme à Tours, Nancy, Limoges, Clermont-Ferrand et Bordeaux, 25 à Dijon et 26 à Lyon et Toulouse. Prévoyez 28 à 32 degrés autour de la Méditerranée, avec 28 à Montélimar, 30 à Marseille, 31 à Bastia et Nîmes, et puis on ira jusqu'à 32 degrés à Toulon.